Oye, André, hay un cachorro oriental. Se refiere totalmente a ti.
Oye, como aquí, o que son grandes, je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Okapi pour vous tenir compagnie à travers Parole aux auditeurs, l'émission 100% interactive qui vous permet de mettre un point de vue sur les sujets qui touchent la vie de tous les jours. Ce mardi 27 juillet 2010, nous parlons du fonctionnement des administrations publiques dans votre milieu et ici, nous voulons plus nous intéresser au fonctionnement des villes communes, quartiers, pour vous qui résidez en ville et également les districts, les territoires, les cités et secteurs. Prenons l'exemple du Kasaï oriental, où le manque des moyens de communication rend difficile l'administration du district de Sankourou. Selon les responsables de cette entité, les six territoires du Sankourou ne sont pas facilement en communication avec le Sambo, chef-lieu du district. Les longues distances séparant les différents territoires renforcent ces difficultés d'administration. Il y a peu, le commissaire des districts de Sankourou a sollicité au micro de Radio Okapi l'intervention de sa hiérarchie pour remédier à la situation et il a par ailleurs indiqué que cela ne facilite pas le travail de règlement des différents conflits qui surgissent dans les contrées distantes de 300 à 800 km de Moussambo. Notons que quelques habitants du territoire de Kokokabaka dans la province de Bandundu se rendent au territoire de Kimbula au Bas-Congo pour régler leurs problèmes administratifs. Ils préfèrent ainsi écouter la distance au lieu de faire près de 80 km pour atteindre le siège de leur territoire. Ils se sentent plus proches de Kimbula. Il en est de même pour certains habitants du territoire de Sekemanga qui se rendent au territoire de Elozi, c'est le chef qui est de leur territoire de Sekemanga. Vous aussi, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre milieu? Les autres personnes se plaignent de ne pas connaître leur chef de quartier, les bourgmestres, les administrateurs du territoire, les chefs de cité, les comités électriques et autres. Vous avez la parole pour en parler dans cette émission. Comment fonctionnent ces administrations dans votre milieu et que faire pour faciliter leur travail? Nous recevons dans ce studio Maître Gilbert Kassinger, expert en décentralisation et conseiller juridique au ministère de la décentralisation et aménagement du territoire. Parole aux auditeurs réalisés ce jour par Tim Poutou, assisté de toute l'équipe et Miko Ndaka est à la supervision et Dieudonné Angassa à la mise en œuvre. Merci les auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour à tous, nous parlons avec vous des administrations qui sont dans votre milieu. Ici, nous voulons juste mettre le point sur les territoires, le district, la ville, la commune, le quartier, le secteur, toutes ces administrations qui nous gèrent au quotidien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans leurs services qu'ils vous rendent? Quels sont les problèmes auxquels ces administrations font face? Et vous aussi, qu'est-ce que vous voudriez que ces administrations puissent faire pour vous? Nous avons évoqué à l'introduction quelques difficultés, par exemple, à Lusambo, au Kasaï, au Sankourou, au Kasaï oriental. Nous avons parlé de Kopokabaka dans le Bandundu, avec les territoires de Kimbula au Bas-Congo. Il y en a qui se plaignent d'être à de longues distances des chefs de leur territoire, ce qui ne leur permet pas de s'y rendre facilement pour régler les problèmes administratifs. C'est ainsi que les autres préfèrent aller dans un territoire qui est plus proche et pourtant qui se retrouve dans une autre province. Quels sont les problèmes auxquels vous faites face et qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter le travail de toutes ces entités? Nous en parlons avec vous. Vous pouvez également nous appeler au 081-899-6315 ou nous envoyer votre réaction par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Maître Gilbert, bonjour.
Oui, bonjour.
Et bienvenue encore une fois au studio de Radio Okapi et dans l'émission Parole aux auditeurs.
Je suis déjà un habitué de cette émission.
Voilà. Vous venez de suivre là l'introduction. On a donné l'exemple de Sankourou dans les Kasaï oriental où l'administrateur, le conseil d'éthique a des difficultés pour administrer les six territoires parce qu'il y en a tellement qui sont à 800 km, à 300 km, le manque de moyens de communication lui pose des problèmes pour connaître tous les problèmes au niveau du territoire et c'est ce qu'il faut faire pour régler cela. Par contre, à propos de Kabaka, c'est quelques habitants mais qui sont plus proches du territoire de Kivula et qui préfèrent se rendre à Kivula pour régler les problèmes administratifs qu'aller à propos Kabaka à près de 80 km de l'urier d'habitation. Et cela, ça fait aussi poser des problèmes hein, dans l'administration. Votre réaction, vous qui êtes expert en décentralisation, pour les deux exemples, peut-être on aura d'autres exemples avec les auditeurs.
Bon, je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs de Radio Okapi.
Mm-hmm.
Et plus particulièrement les auditeurs de la ville de Butembo, parce que nous parlons des villes et de l'administration.
Mmh.
Je leur présente mes condoléances. Vous savez que la situation sécuritaire au niveau de la ville de Butembo est des plus dramatiques.
Mmh.
La population a l'impression d'être abandonnée à elle-même. Chaque jour, il y a en moyenne une personne qui est tuée.
Il y a beaucoup de cas de sécurité.
Il y a même des manifestations hier pour protester contre cette situation. Je voudrais ici dénoncer ce qui paraît commettre l'indifférence des autorités qui sont appelées à se charger de ce genre de situation et en appeler à la mobilisation de tout le monde pour que nous ne considérions pas cette situation comme un fait divers. Parce que en 4 jours, on a tué 5 personnes. En moins d'une année, on a déjà plus de 200 morts. C'est quand même un cas qui mérite qu'on s'y pense sérieusement et qu'on sorte du carcan de l'indifférence qui caractérise les autorités au niveau tant du pouvoir provincial que du pouvoir central. Cela étant, je m'en vais répondre à votre question en disant que la question qui se pose en rapport avec la dignification de certaines entités, déconcentrée comme décentralisée, justifie justement toutes les mesures de réforme de l'administration publique qui se traduisent par la décentralisation.
Mm-hmm.
Vous savez que ce que vous appelez district aujourd'hui est appelé à disparaître.
Mm-hmm.
Les anciens districts sont considérés, lorsque cela sera effectif, comme de nouvelles provinces. Ce sont les anciens, mm-hmm. anciens districts qui vont devenir de nouvelles provinces. Dans le seul souci de rapprocher l'administration de la DC.
Mmh.
Cela signifie que le peuple congolais, parce que tout cela est coulé dans la Constitution, s'est rendu compte que le territoire national était devenu difficile à administrer à cause justement des problèmes de distance. D'où il fallait le découper en plusieurs provinces, et les provinces elles-mêmes découpées en villes, mmh. en territoires, en communes, en quartiers, groupements, etc. Donc, le problème des moyens se pose à tous les niveaux et on ne peut le résoudre que si, effectivement, la décentralisation est rendue effective par rapport à la question du découpage des territoires, du découpage des provinces. Je suis désolé, actuellement, il y a des gouvernements qui se sont réunis pour estimer qu'il n'y a que 4 provinces qui sont viables. Mais à ce qui me concerne, moi, comme citoyen congolais, je crois que toutes les provinces sont viables. Il vaut mieux que la volonté du peuple soit respectée. On écoute pas comment mettre en œuvre, même de manière progressive, ce qui est déjà coûté dans la Constitution.
Et par avant de prendre quelques auditeurs qui sont en ligne, il faut d'abord au début déjà aider les auditeurs à comprendre découpage, décentralisation, parce que des fois ces notions, hein, c'est confondre.
C'est simple, le découpage, c'est une opération matérielle. Vous prenez un pays comme l'Angola, il est découpé en province, mais il n'est pas décentralisé.
Mm-hmm.
Donc le fait de subdiviser un territoire en plusieurs morceaux,
c'est ça le découpage.
C'est ça le découpage. Mais comment sont gérées ces entités découpées?
C'est là
qu'il y a la décentralisation ou la centralisation.
Mm-hmm.
S'il y a autonomie de ces entités qui sont découpées, libre administration, autonomie, les autorités sont élues, autonomie avec personnalité juridique, élection, tout ça, là il y a décentralisation. Mais si les décisions se prennent au niveau du pouvoir central,
il y a la centralisation.
Là, c'est la centralisation.
Mais est-ce qu'on peut parler de la décentralisation sans découpage? Dans le cas par exemple de la RDC, où on a déjà les deux doivent marcher ensemble, mais est-ce que si on se rend compte qu'il est impossible ou pas difficile d'aller au découpage tout de suite, mais on peut quand même connaître une décentralisation, on fonctionne avec d'un côté la décentralisation, mais d'un côté on freine le découpage. Comment les deux peuvent marcher ensemble? Parce qu'il faut quand même qu'on puisse...
Les deux ne sont pas forcément liés. la décentralisation, c'est que les entités fonctionnent au sein des provinces qui existent. Ouais, donc on peut ne pas mettre en œuvre les 25 provinces, mais la décentralisation sera là. Pour les provinces qui existent, il y aura des îles, des communes qu'on est en train de créer. Il y a beaucoup de décrets qui sont déjà signés. Il ne reste que pour le nord qui veut, le sud qui veut, la province de l'Équateur. Mais pour les autres provinces, il y a déjà des nouvelles villes, des nouvelles communes qui viennent s'ajouter aux anciennes villes, aux anciennes communes, et c'est là que la décentralisation fonctionne.
Voilà. On va prendre la liste qui est en Boujimaï, Mathieu est en Lubumbashi et Maurice est à Béni, au nord Kivu. On va vous donner la parole après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
La liste, vous êtes en ligne, bonjour. On vous écoute, nous parlons des difficultés hein, au niveau de l'administration, comment vous rapprochez des autorités, tout ce qui est lié à cela. Vous avez suivi aussi les explications de notre invité. Quel est le problème que vous pouvez poser dans cette émission par rapport à ces thèmes sur l'administration, la gestion et tout ce qui peut faire pour vendre service?
Merci beaucoup Pierrot pour la question et surtout pour le sujet tellement intéressant. Les ADIS, l'administration territoriale dans notre pays a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de modifications. Si nous prenons un cas historique, depuis 1960 jusqu'en 1968, tous les cadres territoriaux étaient recrutés parmi les fonctionnaires de la fonction publique qui étaient régis par le statut des fonctionnaires, des entités décentralisées, bien centralisées. Après un certain temps, il y a eu des évaluations de la fonction territoriale en cause des manœuvres politiques. Il faut prendre les gens qui ne sont pas qualifiés, mais qui sont dans l'appartenance politique d'une famille politique quelconque, on les intègre dans la fonction territoriale. Donc, cela a posé beaucoup de problèmes dont nous connaissons aujourd'hui. Si vous allez dans nos communes, nos bureaux de territoire, des chefferies, des secteurs, il y a beaucoup de problèmes. Vous trouvez, il n'y a pas d'équipement, les bureaux, les bâtiments sont déjà vétustes, et il n'y a pas vraiment d'itinérance entre les autorités et la population. Donc, selon le texte, il faut qu'il y ait une autorité territoriale doit au moins se déplacer 21 jours par mois pour voir son entité. Et même si il doit rester dans son bureau. Actuellement, ce n'est pas le cas. Vous trouvez que le chef, l'administrateur du territoire, le gouvernement, le chef de secteur, il est incapable de se déplacer de son entité. En cause de quoi, il n'y a pas de moyen de transport. La communication, n'en parlons pas. Vous trouvez dans certains territoires, l'ancien système qui est déjà résolu de fournir existe, mais il fallait voir quelle qualité de cette communication-là. Soit vraiment les différents problèmes sont évités. La fonction territoriale au pays, la qualité de ceux qui doivent animer la territoriale, les moyens matériels, ça n'existe pas, ce n'est pas encore important jusqu'à présent.
Voilà, la BIC, maintenant aussi, il faut proposer quand même, enfin, de faciliter hein, à ces administrations leur travail. Quelles sont vos propositions?
Oui, si vous allez proposer des solutions, moi j'aimerais que nous allons voir au niveau du recrutement. Les gens qu'on doit recruter dans la fonction territoriale, ce sont des gens vraiment mieux formés, mieux étoffés, qui doivent assumer ces responsabilités. Mais toujours, on parle des gens qui n'ont aucune notion de l'administration, de la territorialité. Donc, on les place puisqu'ils sont membres d'une famille politique quelconque. C'est d'abord le recrutement, il faut aussi voir les moyens matériels. Quand on crée une entité, on doit voir aussi le fonctionnement, le bâtiment, l'équipement, le bureau, et que tout ça se conforme au fonctionnement de cette entité. Pour mettre tous les moyens matériels aussi du recrutement.
Merci Ladis, vous êtes en Boujimaï au Kasaï Oriental. Nous allons à Lubumbashi. Mathieu, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour M. Pierrot, merci Radio Fabrice dans cette seconde. En ce qui me concerne, c'est l'avancement du système technologique actuellement dans les fondations. Je vous assure, monsieur le journaliste M. Pierrot, que le fonctionnement de l'administration publique dans notre pays est tellement malade. Surtout dans le secteur des communications, ou partout dans plusieurs juridictions, ou en tout cas, nous sommes de l'État par là. Des voies de communes, territoires, districts, pourquoi pas dans des cas des agglomérations qui ne gouvernent pas même des provinces. La manque de matériel de communication, tels que les ordinateurs, machines à écrire, des photocopieuses, voire même des téléphones fixes, comme si nous vivons encore à l'époque contemporaine ou à l'Antiquité.
chose grave, monsieur le journaliste. La question que je me pose est celle de savoir, en cas de vérité, comment parvenir-t-il à se communiquer puisqu'il y a beaucoup de circuits qui peuvent se présenter. Moi, je rappelle à la conscience de tous les gouvernements provinciaux qui sont directement impliqués dans ce sujet. Pourquoi pas le ministère de l'Intérieur? Chacun avec les compteurs de faire tous les liens possibles afin d'équiper les bureaux de leurs entités administratives avec des matériels de communication pour qu'on découvre des hommes conséquents à partir de leur savoir-faire. Pas d'un des détours, mais aussi de faire et ça, c'est non réalisable que nous entendons toujours par les politiciens.
Voilà, merci. Merci, Mathieu. Vous plaignez, mais vous interpellez le ministère de l'Intérieur de doter quand même les entités de moyens, de machines à écrire, de moyens de communication pour permettre à ce que l'administration aussi marche rapidement, que la population soit rendue service, hein, puisse recevoir les services rapidement. Maurice, vous êtes à Béni, honorez-vous. Bonjour.
Bonjour, M. Perrault, la mairie, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio.
Maurice, est-ce que vous avez la facilité hein, de vous mettre en contact avec les autorités qui dirigent vos entités? Si vous allez, par exemple, dans un bureau rapidement ou en service, quelle est la situation à Béni? Parce que vous vivez au niveau de l'administration de vos entités.
Bon, le grand problème que nous vivons d'abord ici en ville de Béni, en est que on ne sait pas ce qui est vraiment le mot administration à sa place. Parce qu'on se rend compte que administrer, c'est prévoir. C'est aussi savoir communiquer.
Mm-hmm.
Savoir prévoir et savoir communiquer constituent des atouts majeurs pour réussir une territoriale de proximité et de développement.
Mm-hmm.
Laquelle place l'homme au centre. Si aujourd'hui on se rend compte, on voit que notre territoire est sous-administré. Il observe un distorsionnement total des services administratifs caractérisés par la détérioration des outils de travail et des infrastructures, la démotivation des fonctionnaires, ainsi que la corruption préventive alors telle que le tribalisme, le clientélisme, le trafic de clients, la corruption, les tracasseries administratives, policières, judiciaires et la politisation des pouvoirs populaires.
Mmh.
En tout sens, ce que nous voulons demander, seulement que l'État puisse créer un environnement administratif propice pour assez donner et rendre au peuple de la République démocratique du Congo et à la population des missions les moyens capables de guider vraiment leur vision et leur passion et de voir aussi que cette population a vraiment atteint de cette territoriale beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, sur le terrain, on constate que presque rien n'est fait. Alors, nous interpellons la confiance de tout le monde,
voilà,
les administrés, qu'ils puissent revoir leur programme et travailler pour la population congolaise.
Merci, Guélor. Vous êtes à Béni. Nous allons à Kananga, au Kasaï occidental. Guélor, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, M. Jean-Yves. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
Vous avez suivi les uns et les autres la situation. Bon, si on voudrait bien faire le bilan, hein, beaucoup de gens pourront se plaindre qu'ils ont assez de problèmes au niveau de l'administration de leurs entités, les contacts, les moyens de communication. Tout cela est déjà évoqué. Vous avez aussi une particularité, par exemple, à Kananga, là où vous êtes. Et c'est que vous pouvez proposer pour que les choses puissent marcher et que la population puisse se sentir encore plus proche de ceux qui les dirigent.
Oui, merci beaucoup. J'ai suivi le premier intervenant, lui a parlé pour ce qui concerne la fonction publique, et c'est cela que je veux aussi toucher. Bon, nous voyons ici au Provincial Cassé Occidental, par exemple, la division provinciale du Bidi, là où je travaille, nous sommes à 90 agents. Et dans des bureaux, ceux qui ont des places, vous êtes 40 ou 45. Là, aujourd'hui, nous voyons qu'on est en train de recruter les nouvelles unités. Je me demande, ils vont se mettre où? Ils auront quel bureau? Non, ça me dépasse moi. Et moi, je peux demander à l'État et tout, peut-être premièrement, chercher des bureaux pour les agents, chercher des places à se mettre, parce qu'on ne peut pas, chercher les agents quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de bureau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront là seulement pour bouffer l'argent, attendre la fin du mois, aller bouffer et rentrer à la maison parce qu'ils n'ont pas de place à se mettre. De deux, pour le découpage, pour celui qui a parlé encore du découpage du territoire là. Voilà, par exemple, je demande à l'État d'être un peu prudent, parce que si on peut découper, on découpe les territoires, il faut découper en raison, en faisant d'abord l'étude, pour savoir si nous coupons comme ça. La Kasaï occidentale, par exemple, la province de Kasaï occidentale, si nous coupons Loulou et Kasaï occidentale, la richesse va aller où? Il faut partager que non, si là-bas il y a la richesse, par exemple, il y a des diamants, de ce côté, il faut qu'il y ait quelque chose. Pas on donne 80% des richesses à une partie non plus. Il faut étudier pour que toutes les provinces passent au moins, aient le moins de ressources. Et puis nous, on devait proposer à l'État.
Merci, Guélor. Vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Merci à tous les auditeurs qui sont intervenus. On va donner la parole à notre invité tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Gilbert, vous venez de suivre les quelques premiers auditeurs, hein, chacun avec ses inquiétudes, mais chacun aussi ce qui est bon, ce sont les propositions que les auditeurs avancent, hein, pour que la situation puisse s'améliorer. Vous avez quand même dû prendre note de l'ADIS, de Mathieu qui est à Lumbashi, de Maurice qui est à Beni et de Laure qui est à Kananga. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ce niveau d'intervention?
Oui, je voudrais juste les rassurer que la solution se trouve dans la décentralisation.
Mm-hmm.
J'ai l'avantage de me trouver dans un ministère qui sillonne certains coins de la République.
Mm-hmm.
Nous avons dépêché dernièrement des équipes pour vulgariser les textes de loi sur la décentralisation. Et moi, j'ai constaté, par exemple, parlant de celui qui est à Beni, j'ai constaté, par exemple, que le gouvernement provincial a fourni des efforts. Toutes les entités déconcentrés comme décentralisés, sont dotés de camionnettes 4x4, double cabine. Donc, l'administrateur du territoire n'a pas de problème pour se déplacer. J'ai vu la même chose au Bandundu. Le gouvernement provincial a fourni un effort pour doter les animateurs des entités territoriales déconcentrées comme décentralisées des camionnettes 4x4. Il y a des provinces où on a distribué des motos. Donc il y a quand même des efforts qui sont en train d'être fournis à la faveur de la décentralisation justement.
Mmh.
Mais je voudrais aussi relever une chose, c'est que nous ne pouvons pas demander une chose et son contraire. Vous savez que dans notre pays, nous n'avons pas la culture de l'impôt. Le civisme fiscal ne nous caractérise pas du tout, ce n'est pas notre fort. En même temps, nous ne payons pas les taxes et les impôts. En même temps, nous demandons aux autorités d'inventer l'argent pour voir à tous les besoins. C'est impossible. Il faut que nous ayons d'abord des ressources. Vous savez, avec un budget de quelque chose comme 5 milliards, on ne peut pas satisfaire tous les problèmes. Mais moi, j'ai lu, par exemple,
un budget de transformation
pour le fonctionnement. Et donc, aujourd'hui, je me réjouis qu'au moment où je vous parle, je devais être dans un atelier où on est en train de valider un projet de loi que nous avons conçu sur la nomenclature des taxes et des recettes qui vont être perçues au niveau des entités territoriales décentralisées et des provinces. Et donc, lorsque ce texte sera voté par le Parlement, chaque entité, que ce soit la ville, la commune, la province ou le secteur ou la CCI, chaque entité saura quelles sont les taxes qui vont lui permettre d'avoir les moyens de fonctionner.
Mmh.
Et il ne faut pas attendre que le ministère de l'Intérieur achète un téléphone à un maire de la ville, parce qu'il y a le principe de l'autonomie financière, il y a le principe de l'autonomie de chaque entité.
Mmh.
Et donc avec ces recettes, chaque entité va s'organiser pour équiper ses bureaux, pour recruter ses fonctionnaires, parce qu'il y a même la fonction publique qui sera différente. Celle du niveau national sera différente de celle des provinces.
Mm-hmm.
Il y aura une fonction publique au niveau de chaque entité territoriale décentralisée. Et donc, tout cela va dépendre de l'organisation de chaque entité. Et c'est ça l'avantage de la décentralisation.
Avant d'avancer, cette émission aussi joue le rôle de la pédagogie pour permettre aux auditeurs de comprendre. Vous avez, depuis le début de l'émission, vous avez évoqué deux fois les entités territoriales décentralisées et déconcentrées. Pourriez-vous aider les auditeurs à comprendre la différence entre les deux entités?
Bon, les entités territoriales décentralisées sont celles qui se gèrent, qui disposent de certaines personnalités juridiques, d'une autonomie, et la loi le cite, les villes, les communes,
les
secteurs et les
périphéries.
Donc à ce niveau-là, il y aura des organes qui vont fonctionner comme au niveau du pouvoir central. Il y a donc une sorte d'apprentissage de la démocratie, mais à la base, il y aura, au niveau de chaque ville, il y aura
un conseil urbain,
constitué des conseillers urbains qui font l'office du Parlement, parce qu'ils fonctionnent comme au niveau du Parlement avec des motions de censure contre les membres du collège exécutif. Donc ils contrôlent le collège exécutif. Et ça fait fonctionner la démocratie comme au niveau du pouvoir central. Et s'il y a des recettes, eh bien, ils contrôlent la façon dont ces recettes sont gérées. Il y a certaines décisions qui sont prises à ce niveau-là et qui sont exécutées par le collège exécutif. Et cela à tous les niveaux, communal, de secrétaire ou de secteur.
Et déconcentré,
c'est les entités qui n'ont pas de présenté juridique et qui dépendent en fait tantôt de la province, tantôt du pouvoir central,
comme les territoires,
le groupement, le quartier et le village.
Voilà. Merci de faire cet éclairage, c'est bon pour les auditeurs. Si vous êtes à Walikale en province du Nord-Kivu, bonjour. Sisson, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, je suis en ligne.
Sisson, on vous écoute.
En fait, je voulais réagir par rapport à cette émission, mais j'interviens à partir de Goma, mais je suis de Walikale, je suis juste à M. de Servi.
Okay.
Par rapport à ça, Walikale, effectivement, c'est un territoire parmi les territoires beaucoup plus engagés sur le plan routier. Vous savez, par exemple, l'administrateur, si il voulait bien centraliser ou faire des activités, ou faire des copies pour superviser ce territoire, c'est tout un problème. Comme vous le savez, donc, par exemple, les gens qui sont à Pinga, à Mpango, à Ntoto, à Isangi, il n'y a pas moyen de pénétrer parce qu'il n'y a pas la route. Et aussi, je voulais signaler qu'à Walikale, dans d'autres territoires, je vois qu'il y a des défis, je ne sais pas quoi, dotés par le gouvernement provincial, mais qu'à Walikale, je ne crois pas, à moins que je sois ignorant par rapport à ça. Sauf que, au niveau du secteur, mais au niveau du territoire, je ne vois pas de victimes. Donc, à Walikale, pour pénétrer donc, la population, pour accéder à l'administration publique, c'est tout un problème. Si vous avez un problème de consultation ou bien des problèmes qui se touchent pour ne pas pénétrer là où il y a l'administration, c'est un problème. Par exemple, à Pinga, comme je l'ai cité, à Ntoto, à Isangi, je ne sais pas quoi, dans tous les faits, c'est tout un problème.
Voilà, et qu'est-ce que vous proposez, Piston, rapidement, pour régler cette situation?
En fait, pour régler cette situation, il fallait que les routes soient désenclavées, ou du moins soient améliorées, pour que l'administration du territoire sache comment aussi faire, n'est-ce pas, pénétrer tous les points du territoire du Walikale. Il y a également, il fallait que le gouvernement congolais suive, il fallait que le gouvernement congolais fasse de donner l'argent au territoire comme c'était prévu dans la Constitution, en fait que le territoire et d'autres communes ou bien les entités soient bien gérées et soient bien administrées. Et si tout le monde doit cet argent affecté au territoire, nécessairement, et ça doit démarrer pour le bien. Et donc, la tâche est de gouverner dans le gouvernement congolais français de protester.
Merci.
Et d'appliquer ce qui avait promis dans tous les pays de la République démocratique du Congo.
Merci, Fiston. Vous êtes à Walikale, c'est honneur qui vous. Nous rentrons ici à Kinshasa. Nous avons Emery Okundi, vous êtes député, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Péro.
Nous parlons de toutes les difficultés. Alors, si vous avez suivi les débuts de l'émission, les auditeurs ont présenté leurs inquiétudes par rapport à tout cela, un état des lieux qu'on peut faire presque d'une manière au général. Mais et vous, en tant que député national, si vous avez demandé aujourd'hui de proposer des mesures concrètes, des solutions pour faciliter le travail de toutes ces administrations, que faudrait-il faire?
Voilà. Comme d'abord je salue tous les auditeurs de Radio Okapi, comme la plupart des auditeurs l'ont suggéré, le vrai problème aujourd'hui dans notre pays, c'est un problème d'enclavement. Vous aviez épinglé particulièrement le Sankourou. Le Sankourou, c'est un très vaste district, une future province, la province du Sankourou est très large, mais qui est totalement enclavé, dont le territoire communique difficilement, hormis ceux qui ont la chance d'avoir des réseaux téléphoniques. Donc le premier problème, c'est d'abord le problème des désenclavements. Et vous remarquerez que ce désenclavement amène des conséquences désastreuses pour l'administration de ces territoires-là. Parmi ces conséquences, vous avez l'inexistence de l'autorité de l'État. Pourquoi? Parce que ceux qui sont supposés administrer, contrôler au quotidien ne peuvent pas se mouvoir facilement, se déplacer pour faire ce travail-là. D'où chacun, là où il se trouve, il se croit être en tout cas un roi de clé. Donc, ça pose des problèmes sérieux. Le deuxième problème, c'est que ces étés-là aujourd'hui ne sont pas administrés dans le vrai sens du mot. vous remarquerez en tout cas le manque total de collaboration entre services. Chacun est en train de chercher à survivre. Et il y a aussi la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance au niveau de ces entités-là. Prenons l'exemple des prêts, ce que l'on appelle prêts de rétrofitch. Lorsque la province prend sa part, la province rétrocède aussi à ses DCD. Mais la gestion de ses DCD, c'est catastrophique. Même au niveau des transferts aussi. Très souvent, vous remarquerez que c'est des tierces personnes qui transfèrent cet argent par des canaux totalement illégaux. Et une fois que l'on est arrivé dans des secteurs, par exemple, vous trouverez que la personne qui a transféré l'argent demande un certain pourcentage, 20%, 30%. Mais la part qui reste, au lieu que cet argent-là soit affecté, par exemple, aux routes de desserte agricole que l'on peut travailler localement, vous remarquerez que cet argent est destiné à loger les autorités du district, les autorités du territoire. Donc, il y a un problème aussi de gestion à ce niveau-là.
Et allez-y maintenant pour terminer. Concrètement, on a réglé tous ces problèmes. Alors là, il faut des mesures pour parvenir à aider et qui dans la prochaine, on ne puisse pas continuer à vivre éternellement toutes ces cas, toutes ces dénonciations.
Effectivement, il faut d'abord rétablir l'autorité de l'État. Il faudrait que l'État, on sent que l'État, il y a force totale de l'autorité de l'État. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est aussi cette émission, cette interférence, que ce soit des autorités centrales, à tous les niveaux, il y a interférence qui ne permettent même pas aux autorités provinciales, ou aux autorités des États, de faire correctement leur travail. Il y a chaque fois c'est comme si en retour, on a un système qui a décentralisé la gestion du pays, mais on vit toujours comme dans la pièce du thème où tout était centralisé par qui c'est ça.
Voilà, merci M. Nery Okondi, vous plaidez pour le rétablissement de l'autorité de l'État, mais éviter aussi l'interférence du pouvoir central dans les entités et les permettre de fonctionner correctement. Didier, vous êtes à l'outil, c'est dans quelle province Didier?
Alors, je suis maintenant c'est Mango Didier, je suis à Lubumbashi.
Non, vous êtes à Lubumbashi, on a abrégé Lubumbashi. Alors Didier, on vous écoute, qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter le travail des administrations, comme on l'a dit depuis le début de cette émission?
Pour ajouter en plus de ce que les amis ont dit, moi je dirais nous devons faire une exploration de tout, monsieur le journaliste, parce que vous remarquerez ensemble avec moi que la RDC est en dégradation totale. Vous verrez tous les endroits où se trouvent les services publics, il y a une catastrophe, monsieur le journaliste. Il n'y a pas ni le matériel, ni les fournitures du travail. C'est pour vous dire quoi, monsieur le journaliste, pour réformer tout cela, je vais proposer à ce sens, à ce que le dirigeant congolais puisse prendre conscience. Regardez même vous, même le nombre de la population congolaise. Nous connaissons une densité démographique très élevée, mais il faut regarder même le nombre de policiers, monsieur le journaliste. Nous avons un nombre peu de policiers. Si vous dénombrez aujourd'hui les policiers et le nombre de la population congolaise, vous remarquerez avec moi que nous sommes trop à travers. Pour remédier à cela, monsieur le journaliste, l'État doit prendre ses responsabilités. Il ne faut pas nous habituer à des choses là quand on réhabilite pour une route. Nous sommes très contents, hors que de notre droit, rien ne sert à se réjouir par rapport à cela, c'est de notre droit. Pour remédier à cela, monsieur le journaliste, moi j'aurais proposé ceci. L'État congolais doit prendre ses responsabilités. Regardez un policier qui passe une nuit dehors pour protéger la population avec ses biens, il est impayé. Il connaît des mois élastiques, il ne touche rien. Il gagne que des petites commissions qu'il est en train d'effectuer, et ça c'est que le pays, monsieur le journaliste.
Voilà, votre souci c'est que l'État prenne la charge, prenne en compte la prise en charge de son travail. Et tenir aussi compte de l'évolution démographique par rapport à tout ce qu'on doit prendre comme mesure. Merci Patient, vous êtes à Lubumbashi. On va prendre, merci Didier, vous êtes à Lubumbashi, c'est Patient qui est à Kikwit dans la province de Bandundu. Patient, bonjour. Patient, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, pendant le temps que Patience organise, hein, on va aussi prendre Honorable Godefroy, mais le temps aussi de remettre la parole à Maître Gilbert et Katine. Vous avez suivi les auditeurs, mais vous avez aussi suivi les problèmes posés par le député Mary Okundi par rapport à la gestion même de quelques frais de rétrocession. Est-ce que si on va, bien sûr, au découpage, décentralisation, mais au niveau de l'éthique même de la gestion, si cela n'est pas réglé, est-ce qu'enfin ça peut faciliter le travail des entités? Si on ne met pas l'accent aussi sur le problème de la gestion de ces entités, même si on le décentralise, même si on le découpe, mais l'accent sur la gestion peut aussi poser le problème, malgré toutes les mesures qu'on peut prendre.
Oui, je voudrais d'abord saluer l'honorable Mary Okundi, qui est parmi les députés que j'admire beaucoup. Et il pose là un vrai diagnostic du problème congolais. Et nous nous disons toujours, encore une fois, que c'est la décentralisation qui est le remède. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on pose le problème de d'enclavement, nous avons dépêché une délégation dans le Kassai, on nous a relaté tous les problèmes des déplacements qui se sont posés là-bas, donc il n'y a pas de route. Il faut savoir que dans le système de la décentralisation, il ne faut pas rejeter toute la responsabilité au pouvoir central. Parce qu'il y aura des routes d'intérêt local qui seront de la compétence des autorités locales. Une route qui traverse deux communes, il ne faut pas demander au Premier ministre d'aller arranger ça. Une route qui est dans une province, qui relie deux villes d'une même province, c'est la compétence de la province. Et je crois que tout le problème vient du fait que, avec tout le fardeau de la dette que le pays avait, vous savez qu'on était obligé de payer, de débourser autour de 50 millions de dollars chaque mois pour payer la dette extérieure, mais je crois qu'avec la perte du point d'achèvement, on peut espérer que le budget de l'exercice prochain, 2011, va permettre aux provinces de recevoir plus de rétrocessions, surtout qu'ils sont, ils viennent terminer d'en parler, ce n'est plus la retenue à la source, mais on va tenir compte de la solidarité nationale, parce qu'il y a des provinces qui n'ont pas suffisamment on va tenir compte de leur état, de leur situation. Et donc, les provinces doivent se caractériser par les initiatives. Il ne faut pas attendre tout du pouvoir central, même lorsqu'il s'agit d'arranger un pont dans un quartier, il ne faut pas dire l'État congolais. Et donc, les routes de dessertes agricoles, les routes d'intérêt provincial, la province va s'en occuper, les entités territoriales décentralisées, dont on dit qu'elles subissent des interférences du pouvoir central parce que ça a retenu mon attention, il faut qu'ils répondent. Et c'est qu'en fait, il est vrai que les entités territoriales décentralisées ne fonctionnent pas encore exactement comme
le veut la loi.
La loi, il n'y a pas encore parachèvement du processus. Nous attendons les élections municipales et locales pour que on mette en place les organes de contrôle et l'exécutif au niveau des STD, parce que le contrôle, la gouvernance au niveau de la base va être assurée à partir des organes qui vont faire fonctionner les organes, les entités. Donc, il n'y a pas de contrôle. Les maires de ville, les bourgmestres sont nommés par ordonnance du chef de l'État, d'où, c'est comme s'ils étaient encore déconcentrés. Il faut attendre que le processus s'établisse. On va apprécier à sa juste valeur l'évolution.
Il y a un patient qui est acquis, honorable Godefroy, que nous allons prendre tout de suite après quelques secondes.
École d'économie simplifie les calculs des provisions économiques, les termes et autres expressions réservées aux seuls initiés, mais aussi le monde du commerce, ses flux et reflux. École d'économie, l'actualité économique qui ne peut jamais simplifier. Pour mieux comprendre ce qui fait tourner la finance, fait courir les taux et fait marcher l'économie, Écho d'économie, sur Radio Capi, de 18h15 à 18h30, de lundi à vendredi, et ça ne se calcule pas.
Et là, Écho d'économie, prenez déjà rendez-vous, vous allez trouver toute l'équipe Agathe Mpona, vous allez retrouver Béry Franklin, Lukaka, Daniel Tambizoni, vous allez retrouver Jocelyne Moussaou, toute l'équipe d'Écho d'économie. Parole aux auditeurs, on vous donne la parole, cette fois c'est par rapport à tout ce qui touche à l'administration au niveau de vos entités, comment vous vivez cela, comment vous rendez comme service, qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter leur travail. Patient, vous êtes maintenant en ligne, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Vous êtes à Tipiste dans la province de Bandundu, on vous écoute patient.
Non, je suis à Kindu dans la province de Maniema.
Ah, c'est Kindu dans la province de Maniema. Ah, ok, on vous écoute maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter le travail de l'administration là où vous êtes pour qu'elle vous rende un service comme vous voudriez vraiment que ce soit?
Voilà, merci beaucoup. J'aimerais d'abord féliciter l'intervenant Mangou Didier qui avait compris. Nous partageons avec lui le même langage dans le sens qu'on nous a mal habitués dans notre pays, on nous a très mal habitués. Vous voyez, imaginez-vous comme par exemple ici à Kindu, où les services publics sont délaissés. C'est comme si eux-mêmes ne touchent rien, ne gagnent rien, et puis ils vous soumettent à des exercices difficiles. C'est-à-dire que même pour obtenir quelque chose que vous cherchez, même pour aller enregistrer un enfant, pour aller déclarer la naissance d'un enfant au niveau des bureaux de l'état civil, monsieur le journaliste, c'est tout un exercice. Et pour remédier à cela, moi je dirais, surtout notre province qui est très enclavée, où il n'y a pas de route, rien n'est fait, bon, je vous écoute là une fois de chanter chaque jour le même chantier, je ne sais pas si la province du Maniema est l'autre quartier à la République démocratique du Congo, c'est pas moi, mais par rapport à ce que je suis en train d'intervenir, c'est qu'ici chez nous, il y a un enclavement où il n'y a pas moyen. Même quand vous entrez dans un bureau, vous direz ça c'est un jeune siècle, ça c'est un petit le Congo. Ça, c'est, ici, nous vivons encore une étape que les autres ont déjà passée. Donc, c'est pour dire, nous, l'État congolais doit prendre toutes ses responsabilités. Mais il n'est plus le temps de nous flatter, de faire une planerie irréfragable. Il est temps de reconstruire le pays. Quand vous entrez, par exemple, dans un bureau d'un service public, vous remarquerez ensemble avec moi que ça, c'est le 15e siècle. Ce n'est plus encore 2010, monsieur le journaliste.
Voilà. Patient, vous êtes à Kindu, vous avez suivi une autre invitée qui a des efforts qui doivent être fournis. Quand on parle de l'État congolais, c'est du pouvoir national jusqu'aussi au pouvoir local, jusqu'au pouvoir provincial. Tout cela, il y a des responsabilités partagées pour ce qu'on peut faire. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des efforts quand même fournis sur le plan local pour aider quand même à désenclaver quelques coins de la province et même pour résoudre quelques problèmes au niveau de l'administration? Est-ce que vous avez cette impression-là?
Ici, on a dit, messieurs les journalistes, qu'on ne vous trompe pas rien. Dans ce qui me tombe dans notre émission, permettez-moi de le dire, c'est que vous verrez, ils ont essayé de cacher la vérité, ils passent là-bas la photo. Il y a la vérité dans la main comme ça, mais ils lâchent la vérité pour dire, vous verrez, nos autorités, par exemple, au lieu qu'ils disent la vérité, mais pour qu'ils soient considérés comme les meilleurs, ils sont en train de faire un rituel, une liturgie politique, monsieur le journaliste, au lieu qu'ils disent la vérité.
Voilà, merci.
Une autorité dans notre pays, au lieu qu'ils disent ce qu'il avait vu, ce qu'il est en train de vivre, mais il veut dire non, ça va très bien. Pour qu'il soit protégé, lui et son entourage. Ça, c'est le pays, monsieur le journaliste.
Merci, Didier Patient. Votre inquiétude, c'est qu'il faut que la situation de Kindu soit regardée telle qu'elle est et que les gens s'y penchent pour améliorer. Honorable Godefroy, vous êtes ici dans la ville de Kinshasa, je crois.
Non, je suis là.
Oui, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Oui, honorable Godefroy, vous êtes dans quelle province?
Je suis à Bukavu, au Kivu.
Voilà, honorable, on vous écoute. Hein. Nous parlons des difficultés que rencontrent les administrations et les remèdes hein, pour qu'on puisse améliorer, faciliter leur travail. Vous êtes à Bukavu, au Kivu. On vous écoute.
Oui, merci beaucoup, Amélie. Je suis à Bukavu. Et l'émission m'est arrivée justement quand j'étais en train de rédiger une conférence sur la décentralisation.
Mm-hmm.
Parce que pour moi, la décentralisation est vraiment le remède. Convient mieux à ce pays continent. J'étais en train de préconiser quatre solutions pour pouvoir arriver à ça, parce que sans décentralisation, franchement, on peut tout faire, on n'arrivera pas au développement qu'on est en train de traiter.
Oui, les quatre solutions,
les quatre solutions. La première, c'est la poursuite de la démocratisation qui a commencé en 2006,
mm-hmm.
qui doit se poursuivre avec les élections locales et municipales et provinciales pour 2011 et législatives et présidentielles.
Mm-hmm.
Donc il faut continuer et il faut poursuivre la démocratisation par les élections.
Mm-hmm.
Et en deuxième lieu, il faut à tout prix former les cadres. Parce que vous imaginez, monsieur le journaliste, dans l'esprit des cadres politique et administratif, il n'y a pas même cette décentralisation. Mm-hmm. Quelqu'un concentre tout le pouvoir avec lui, et vous n'avez qu'à vous rendre dans les ministères ou dans les gouvernements des provinces, vous allez voir les gens qui attendent de l'autorité tous les matins jusqu'à 18h, parce que c'est simplement les chefs n'ont pas décentralisé, comme il était, il ne peut pas recevoir, tout, il doit tout traiter. Vous imaginez, il n'a pas décentralisé, peut-être qu'il doit aussi aller de faire avec la bonne gouvernance. Vous ne pouvez pas tout concentrer avec vous et penser que vous allez tous les jours. Donc il faut, dans l'esprit des dirigeants, une certaine décentralisation aussi. Il faut que des séminaires soient faits dans ce sens-là. Et je pense que mon ami de l'expérience, M. Mbouta Mepou, c'était un ami de l'université. Il va falloir qu'il fasse des programmes d'éducation auprès des cadres et qu'ils sachent qu'on doit décentraliser à son niveau. Mmh. Et le troisième point, c'est le respect des textes. Il y a des textes qui sont là, l'article 175, alinéa 2, qui constate la retenue à la source. Mon ami Okunji, qui est un collègue de l'Assemblée nationale de transition, a parlé de. Et de la rétrocession, ce n'est pas la rétrocession, c'est la retenue à la source. On ne doit pas rétrocéder l'argent détenu de tout ça. Non. On doit retenir à la source, on doit respecter ça et voir les modalités d'application, faire des textes, et qui sont encore à l'Assemblée là-bas. Il ne faut pas qu'ils terminent ces mandats, parce qu'il y ait des dispositions pour répartir ces fonds-là, les 40%. Les installations, on doit faire aussi les installations des commerces de façon progressive. En imitant l'exemple de l'enquête qui vous a été fait, je pense que quelqu'un peut me dire, même si les gens disent qu'il y a failli évaluation, penser qu'il a failli des progrès, il y a des progrès parce que les trois provinces travaillent, il faut qu'on fasse ça.
Voilà, Roland, si je vous disais enfin, c'est par rapport au quatrième point, hein, pour permettre aussi à d'autres auditeurs de s'exprimer, c'est pourquoi je disais enfin pour le quatrième point, et permettre aux
d'intervenir. Oui. Le quatrième point, c'est la poursuite du programme des 5 chantiers de la République, notamment sur son volet infrastructure. Vous savez, qui facilite la décentralisation, voit les voies d'accès. Bon, les provinces peuvent rester maintenant à 11, mais s'il y a des routes qui réduisent les distances, en tout cas, on aura décentralisé parce que quelqu'un pourra prendre facilement de se trouver à Bukavu, il fait un aller-retour, il n'y a pas de problème, il règle les problèmes, il rentre à l'hôpital. Donc, je pense qu'il faut que ces données-là se poursuivent et on aura décentralisé sans le savoir et les gens auront accès, les gouvernants et les gouvernés vont se côtoyer sans problème.
Monsieur Godefroy. Vous êtes député provincial au sud Kivu. Merci de votre intervention. Vous êtes à Bukavu présentement. Nous allons de l'autre côté à Kisangani, à province orientale, pour prendre le dernier auditeur de cette série avant de remettre encore la parole à Maître Gilbert. Didier, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour Pio.
Didier, on vous écoute. Vous avez suivi les députés Godefroy à quatre propositions intéressantes quand même hein, pour parvenir à régler tous ces problèmes qui se posent au niveau de l'administration. On vous écoute, Didier.
Oui, moi ici à Kisangani, ce que moi je donne comme remède, comme solution, il faut qu'on bannisse la territoriale des originaires. Je ne suis pas pour cette pratique-là. Mm-hmm. Moi, je donne mon exemple. J'ai été à Okatanga, j'ai été à Manono, à Sakanya, à Kamina. En tout cas, j'étais bien. Et moi, je veux dire, quelqu'un qui est ici à Kisangani, qui veut être maire de la ville, il peut être du Bas-Congo, il peut être du Bangui, il peut être maire de la ville ici à Kisangani. Si on m'envoie par exemple à l'Équateur comme à l'échappée du territoire, je peux y aller. Donc, moi, je pense que la politique là de la territoriale des originaires, c'est à bannir. Ce n'est pas bon. Ça détruit notre territorial. Un autre problème, c'est la transparence dans la gestion des recettes. Je prends par exemple le territoire comme Ouatcha. Il y a le plus grand projet d'or au monde qui sera exploité à Ouatcha. Est-ce que les recettes là, les pas de bourse, les redevances, les impôts, que ces entreprises minières payent. Je crois que la plus grande partie reste à Kinshasa. Et Kinshasa ne rétrocède pas. Et nos entités ici ont des difficultés pour travailler. Voilà. Donc là, c'est tout ce que je veux dire.
Merci beaucoup, Didier. C'est très, très important. Nous remettons la parole à Maître Gilbert. Vous avez encore suivi les auditeurs, mais dans le propos du député Godefroy de Sud-Kivu, il y a un point que moi j'ai pu souligner, c'est par rapport à la formation des cadres de la territoriale. C'est-à-dire qu'il faut que l'esprit de la décentralisation puisse être aussi même dans la tête des autorités qui vont animer ces entités, pour qu'ils comprennent comment ils doivent se référer au texte, d'avoir l'été qui permet à ce que les choses puissent marcher, plutôt que venir à 12 heures pour attendre l'autorité, il ne veut pas que ce soit réglé par quelqu'un d'autre, on l'attend jusqu'à 18 heures, et là, le problème risque d'être le même, malgré qu'on pourra décentraliser.
Oui, monsieur le journaliste, ce n'est pas ça la décentralisation. Ça, c'est la responsabilisation. Lorsqu'un chef, d'un service confie certaines tâches à ses collaborateurs, ce n'est pas ça la décentralisation. La décentralisation suppose qu'il y a autonomie de gestion. Et donc, ce n'est pas le cas. Et à ce qui concerne les formations, je voudrais rassurer notre ami de Bukavu que il existe une structure qui collabore avec le gouvernement provincial, une structure qui est financée par la Banque mondiale, qu'on appelle projet de renforcement des capacités en gouvernance. Et s'il a un certain nombre de préoccupations par rapport à la formation, et il peut contacter soit le gouverneur de province, soit le coordonnateur de la structure. Ensemble, ils vont monter, ils font beaucoup de formations, et ils assistent le gouvernement provincial dans la bonne marche de la province, dans tout ce qui peut l'aider à promouvoir une bonne gouvernance. Je voudrais aussi le rassurer que lorsque moi j'ai parlé de
la rétrogradation et retenue,
je n'ai pas dit que c'est mon point de vue. J'ai dit que les gouverneurs de toutes les provinces se sont retrouvés ici à Kinshasa autour de son excellence Monsieur le Premier ministre. Je crois ils ont fini avant-hier. Et c'est autour de cette table qu'ils ont pris la résolution de ne pas tenir compte de la retenue à la source, mais plutôt de continuer avec le système qui promeut la solidarité nationale. C'est-à-dire, on ne va pas faire la retenue à la source, le gouvernement central va chaque fois rétrocéder aux provinces sans tenir compte de leur production seulement, mais aussi d'un certain nombre de critères comme la démocratie, l'étabilité territoire et tout ça.
Mais pour rejoindre Didier, c'est qu'il faut aussi mettre vraiment le point sur la gestion de ces ressources et rétrocéder aussi pour que cela bénéficie enfin.
Il y a le principe de la libre administration. Le pouvoir central, la Constitution ne permet pas au pouvoir de faire un contrôle de tutelle sur les provinces.
C'est au niveau des assemblées provinciales.
Oui, les assemblées provinciales, puisqu'ils sont constitués de députés élus du peuple, sont là pour exercer le contrôle. Et évidemment, il y a la Cour des comptes qui peut le faire, il y a les inspecteurs de finances qui peuvent être dépêchés en province pour contrôler les comptes. Mais le gouvernement central ne peut pas commencer à contrôler les comptes de province. Ce serait marcher déjà sur le cadavre des textes qui ont déjà été mis en place. Je réponds également à la question de Didier de Kisangani qui voudrait nous conseiller de bannir la territoriale des
autres.
Je pense que affirmer cela, c'est ne pas comprendre la décentralisation. Parce qu'on laisse la liberté au peuple de choisir ses dirigeants dans la décentralisation. Les maires de ville, les bourgmestres, ils seront élus au niveau local, ils ne seront plus nommés ici. Mais si la population estime que c'est tel compatriote originaire de telle province qui mérite d'être maire
qui
vit dans le milieu, mais il sera élu.
Voilà, parce que c'est la compréhension générale des gens, c'est que tu ne peux pas postuler là où tu es originaire. La loi, c'est ça l'idée qu'il voudrait que les gens comprennent. Qu'on peut être du Kassai oriental, mais on vit au Bas-Congo, on postule là. Et si les gens trouvent que vous donner crédit, ils peuvent le faire.
Oui, absolument.
Plutôt que dire à la personne, si tu es du Kassai oriental, rentre pour aller postuler au Kassai
FM. Moi, je suis originaire du Nord-Kivu, je n'ai pas envie de le dire. Je vous dis, si en 2011, par exemple, il y a un homme comme Conde Villa Kitanda qui pose sa candidature là-bas. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour lui. Quand de vue, la Kitana n'est pas originaire du Nord-Kivu. Mais c'est une personnalité qui a laissé des traces à Goma, qui a laissé des traces au Nord-Kivu, et qui a laissé une très bonne image.
Voilà.
Donc ce n'est pas la territoriale des ordinaires, c'est la territoriale du peuple.
Alors, la personne là où elle se trouve, elle peut postuler et on lui donne une confiance, on peut...
Voilà, s'il se convaincre.
Ok, Émile, vous êtes à Kingo, on termine l'émission avec vous, vous êtes le dernier auditeur, Émile, vous êtes en ligne, bonjour. Émile, vous êtes en ligne? Apparemment, Émile a des problèmes, oui, soit qu'il est distrait, mais on va revenir à vous, Maître Gilbert. Nous avons, au début de l'émission, donné l'exemple de Popo Kabaka dans les Bandundu et Kimvula dans les Bas-Congo. Est-ce qu'on tient compte aussi de cela au niveau du découpage pour éviter cette inquiétude de gens qui se retrouvent, donc les chefs de leur territoire est plus éloigné, alors ils préfèrent aller dans un territoire qui est plus proche. Comment on peut régler des cas comme celui-là?
Vous savez, c'est comme l'honorable Godefroy l'a dit, il faut avoir un esprit décentralisé. La Constitution et même la loi voulaient insister sur cet aspect de la chose.
Mm-hmm.
De sorte qu'aujourd'hui, pour ériger une agglomération en ville ou en commune, on a besoin que l'avis favorable vienne de l'Assemblée provinciale.
Mm-hmm.
Pourquoi ? Parce que les députés provinciaux sont censés connaître toutes les réalités du terrain.
Mm-hmm.
Le Premier ministre prend un décret pour homologuer les avis qui viennent de la base.
Mm-hmm.
Donc, si on estime qu'il y a un territoire ou une agglomération qui est une entité qui est enclavée ou qui est éloignée, il appartient à la base, donc à l'Assemblée provinciale,
mm-hmm.
de voir si l'entité remplit un certain nombre de conditions pour être érigée soit en commune, soit en ville, soit garder le statut de secteur, qui est également une entité territoriale décentralisée.
Mmh.
Et dis-moi, que préconise l'honorable Godefroy, parce qu'il a dit la même chose que moi. Lorsqu'on va parachever le processus, vous allez voir qu'il y a des villes qui vont avoir des relations de partenariat avec des villes en Europe, en Amérique, qui vont avoir une certaine émulation, qui vont se préoccuper de leur développement, parce qu'il y a des recettes qui seront gérées sur place, il y a des plans de développement qui seront construits sur place,
mmh.
il y aura un certain nombre de choses qui seront se rapporte aux besoins sociaux de base qui vont être gérés sur place au lieu que la décision vienne de Kinshasa ou souvent dans nos bureaux climatisés, nous ne savons pas ce qui se passe dans tel ou tel autre coin éloigné de la République.
Voilà. Merci Maître Gilbert Kassine d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Nous disons également merci à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous ont écoutés dans cette émission. Nous disons merci à Titi Mpoto qui a réalisé cette émission, assisté de Belia Masinga. Yodinyanga c'est la mise en onde, Nico Ngakala supervisé. Vous aurez le thème des paroles des auditeurs de demain mercredi dans notre annonce de 12h55 sous les antennes de Radio Capi. Puro et la Meiji vous dit merci et passez d'agréables moments en compagnie de Radio Capi. Au revoir et à demain.